Bonjour à tous, donc Marie-Charlotte Noulin, très heureuse d'animer cette table ronde aujourd'hui sur les écolos sont-ils des cathos qui s'ignorent ? Pour étayer, débattre autour de cette question, j'ai le plaisir d'accueillir frère Jérôme Gay. Frère Jérôme, vous êtes jésuite, président du Centre de recherche et d'action sociale, qui est un centre de recherche et de débat sur les questions sociales à la lumière de la foi chrétienne, et qui édite la revue Projet, qu'on peut trouver d'ailleurs, il me semble, à l'entrée de l'église. Vous êtes également responsable de l'apostolat social pour la Compagnie de Jésus. Vous proposez de nombreuses formations sur la doctrine sociale de l'église, et vous êtes auteur d'un livre, Parcours spirituel pour une conversion écologique. Avec nous, nous avons... voilà, que vous avez ici. Nous avons aussi Amélie Alocha-Marson. Vous êtes intéressée très tôt à l'écologie par votre famille et vous y avez dédié votre vie professionnelle avec un parcours en écologie, environnement, droit en sécurité alimentaire. Et vous travaillez actuellement pour le réseau Semences Paysannes. Vous faites de la veille juridique. Et vous êtes une femme engagée. Vous êtes engagée très tôt dans l'écologie. Et vous avez monté notamment en 2014 un parcours sur l'écologie dans votre paroisse. Et aujourd'hui, vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle Collectif Lutte et Contemplation, qui a été créé récemment en 2023. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans cette table ronde. Et enfin, Anne-Françoise Marie, vous êtes mère de famille, vous travaillez dans la tech. Engagée aussi dans votre paroisse pour l'écologie et vous animez une chronique sur votre préoccupation écologique au quotidien sur Radio Présence depuis 4 ans qui s'appelle L'écologie à petits pas, dans lequel vous abordez le télétravail, la randonnée, les pique-niques écolo ou encore la permaculture sur le balcon. Donc aujourd'hui, nous allons débattre autour, les écolos sont-ils des cathos qui s'ignorent ? Alors la question a de quoi surprendre. Moi, j'aimerais partir d'une citation du pape François, dans Laudato si, qui dit « J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous. » parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Alors, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui ? Ce serait comment trouver cette conversion qui nous unit, justement ? Comment est-ce que les catholiques et les écologistes peuvent se nourrir ? Sont-ils les mêmes ? Comment tout cela s'entrecroise ? D'abord, peut-être un petit état des lieux. D'après une étude IFOP, les catholiques les plus pratiquants sont aussi les plus engagés sur les sujets environnementaux. Ça prouve bien qu'il y a quand même des points d'union entre l'écologie et les chrétiens. Alors, ma première question, peut-être pour vous, frère Jérôme, que dit déjà l'Église au sujet de l'écologie, peut-être de la spiritualité autour de ces questions-là ?
Bonjour. On va dire, si on veut savoir que dit l'Église, je pense que la voix du pape est quand même prédominante aujourd'hui avec cette encyclique Laudato si, qui est... un écrit majeur dans la doctrine sociale de l'Église de ces dernières années. Il me semble que le pape nous secoue tous. Il nous dit combien aujourd'hui, bien sûr, cette question est importante pour la destinée de l'humanité. Et en même temps, il dit combien une approche spirituelle est importante. Voilà. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Il dit « S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Voilà. » Ce que je trouve très intéressant dans sa démarche, d'abord, c'est une encyclique qui ne nous assomme pas, qui nous culpabilise pas, mais qui nous dynamise. Et parce qu'il y a cette référence spirituelle qui est très grande. Voilà. Et il va essayer de nous faire aller dans ces profondeurs qui va nous donner le ressort de nous engager et qui va nous donner la capacité de durer dans l'engagement.
Ça voudrait dire que l'écologie aujourd'hui est un terrain de mission pour les chrétiens. Comment s'engager aujourd'hui? Comment parler aux écologistes en tant que chrétien, vous qui animez une chronique sur le sujet?
Mais je pense que le premier terrain, en fait, c'est peut-être une conversion personnelle où tous les catholiques sont appelés eux-mêmes à contempler la création, à se reconnaître créature et comme faisant partie de la création. Saint François le dit depuis très longtemps, en fait, qu'on est une part de la création et que la création doit être vue comme le frère soleil, notre sœur la pluie, etc. Et je pense qu'en se convertissant nous-mêmes à cette contemplation de la beauté de la nature, on aura peut-être les bons mots quand on va être en dialogue sur les sujets de l'écologie avec des gens qui sont absolument pas dans l'Église. On aura peut-être les bons mots pour justement leur expliquer pourquoi nous, notre volonté de protéger cette nature, elle vient du fait que cette nature vous est donnée par le Créateur, en fait. C'est pas forcément un discours qui est facile à aborder comme ça, mais je pense que le sujet de l'écologie, en tout cas ceux qui sont intéressés par ce sujet, sont assez sensibles à la beauté de la nature, à la beauté d'un paysage, à la beauté des écosystèmes, à tout ce qui nous est donné dans la création. Et ce biais-là peut être un bon moment pour leur expliquer pourquoi nous, chrétiens, on croit que cette nature, elle nous est donnée par le Père et que tout ça est à protéger parce que c'est un cadeau du Père.
Vous vous disiez, Amélie, que vous connaissiez des gens qui sont venus à la foi par l'écologie, justement.
Oui, effectivement. Ça marche? Oui, ça marche. Okay. Oui, effectivement, moi j'ai des témoignages de certaines personnes qui, effectivement, sont venues à la foi par la contemplation justement de la nature. Aussi parce que dans les milieux, en tout cas moi, ceux que j'ai pu fréquenter, les milieux écolo, il y a aussi quand même une certaine appétence, en tout cas une certaine attention à la spiritualité, alors dans toutes ses formes, donc plus ou moins cadrées, mais en tout cas il y a quand même aussi, j'ai vraiment cette impression, le fait de voir aussi la nature et, comme quelque chose d'un peu sacré, et alors du coup c'est plus ou moins, ça se traduit de manière plus ou moins chrétienne, ou parfois ça apprend du coup des traditions un peu new age, etc. Mais il y a aussi parfois cette vraie, du coup, ça peut être un point d'entrée pour entrer dans une quête de Dieu et dans une conversion du coup chrétienne et catholique. Ouais.
Et vous, par exemple, au sein de votre collectif Lutte et Contemplation, est-ce que c'est pas exactement justement ça que vous faites, que vous témoignez, ou une forme d'évangélisation assez double, l'écologie et Dieu, ou...
Alors, au sein du collectif Lutte et Contemplation, l'idée, c'est pas forcément d'avoir une mission évangélisatrice en première intention, en tout cas. L'idée, c'est vraiment aussi de porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques, parce que justement, nous, on a l'intuition, enfin, c'est pas qu'on a l'intuition, c'est que on est beaucoup d'engagés dans les luttes écologiques, et on voit bien qu'on a une spécificité chrétienne parce que notre engagement écologique est fondé dans la foi, est fondé dans la prière et se nourrit de la contemplation. Enfin, c'est aussi pour ça lutte et contemplation, parce que ça se nourrit de la prière et de la contemplation, et aussi voilà, de ces temps de repos, de ressourcement, de relation avec Dieu qui nourrissent vraiment nos actions. Et l'idée, c'est voilà, de porter cette voix chrétienne à la fois dans le monde laïque, en rejoignant des actions organisées par des collectifs pas forcément, pas du tout catholiques ou pas du tout chrétiens, et aussi justement de porter cette parole un peu écologique et d'engagement dans les églises et dans les paroisses, parce qu'aujourd'hui, quand même, le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, bien souvent, les paroisses, les congrégations, peut-être qu'elles ont parfois des parcours là-dedans aussi, etc. Mais finalement, dans les faits, en tout cas, moi, je suis souvent très, très frustrée parce que dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On fait beaucoup de choses sur la contemplation de la création, etc. Et c'est très bien, et voilà. Mais je trouve que concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Et voilà, et l'idée, c'est aussi d'apporter des outils que nous, on a en tant qu'activistes dans les milieux écolos, parce qu'il y a des outils, et de les apporter, en venir en soutien aussi dans les paroisses et dans les congrégations.
Et justement, ça amène au fait que chez les cathos, tout le monde, il n'y a pas forcément un consensus sur l'écologie. Beaucoup se sentent, on va dire, enfermés justement dans cette image de l'écologie politique, militante, etc. Alors que, et aussi, deuxième point important, finalement, le sujet de l'écologie divise dans l'Église, c'est-à-dire que certains pensent que ce n'est pas le rôle de l'Église de se saisir de ce sujet. Qu'en pensez-vous, frère Jérôme ?
Je pense que si on remonte à la vie du Christ, on voit qu'il est dans une société extrêmement dure socialement, qui produit beaucoup d'exclusion avec des taxes énormes sur les gens, et ils perdent leurs terres, ils se retrouvent vagabonds. Et qu'est-ce que fait le Christ ? Il va rejoindre ceux qui sont à la marge de la société, ceux justement qu'on subit ces méfaits sociaux, cette difficulté dans cette époque-là. Et il va dire des paroles assez fermes et fortes par rapport à ceux qui méprisent ceux qui sont à la marge de la société, par rapport à ceux qui tiennent le haut du pavé et qui finalement profitent de ce système social de l'époque. Donc en fait, d'une certaine manière, la bonne nouvelle du royaume, il l'annonce, mais en étant avec ceux qui sont aux marges de la société et avec ceux qui subissent la misère, la difficulté. Évidemment, du temps du Christ, la question écologique n'était pas à l'ordre du jour, parce que l'activité humaine était faible et n'avait pas d'impact sur les équilibres écologiques de l'ensemble. Aujourd'hui, l'activité humaine a un impact fort, que ce soit sur les questions de réchauffement climatique ou sur les questions de pollution des terres, enfin bon, il y a tous les domaines, quoi. Et a des conséquences très fortes sur beaucoup de gens. Voilà. Des paysans au Bangladesh sont obligés de fuir et de quitter leurs terres parce qu'elles ne peuvent plus être cultivées à cause de la montée des eaux. Cela à cause du réchauffement climatique. Bon. Plein de choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'appel du royaume, c'est de vivre et annoncer la bonne nouvelle avec ceux qui subissent les méfaits de l'organisation sociale et en essayant de lutter contre pour le bien-être et pour sauver aujourd'hui cette création, cette planète. Voilà.
Et justement, alors, il y a une personne qui pose la question. Nous avons expérimenté en paroisse que l'alerte sur l'urgence climatique ne mobilise pas. Il est essentiel d'aborder l'écologie via la conversion du cœur. C'est ce que vous disiez.
Oui, en fait, il y a des parcours qui existent, comme disait Amélie, pour les paroisses. Et il y a une structure qui s'appelle Église Verte et qui amène, en fait, qui peut amener alors des paroisses, des associations, des communautés, il y a plusieurs déclinaisons, même les familles, à faire un premier bilan, en fait, sur très concrètement, sur leurs actions, sur leurs impacts écologiques, et à proposer des chemins de conversion dans l'action pour améliorer, en fait, diminuer cet impact. Et je pense que c'est important d'apporter cette vigilance à l'écologie avec aussi de l'espérance. Et je pense que c'est là que les chrétiens ont quelque chose de différent à dire. C'est-à-dire que nous, on a cette espérance chrétienne à apporter. On a cette joie de la contemplation à apporter aussi pour sortir d'une écologie qui peut être culpabilisatrice ou punitive et pour passer, en fait, à une écologie plus positive qui va aider les gens à être dans l'action. Parce qu'en fait, le discours écologique peut être extrêmement pessimiste, et peut aussi bloquer les gens en fait dans leur action. C'est-à-dire qu'à force de dire qu'il y a plein de catastrophes, et on voit que dans les médias, le nouveau catastrophisme un peu à la mode, bah, c'est le catastrophisme écologique. Et des fois, il y a des vraies erreurs et des vraies bêtises qui sont diffusées en fait dans les médias et qui peuvent être génératrices d'une grande anxiété. Les jeunes générations sont très touchées par l'anxiété écologique et cette anxiété, elle peut les bloquer dans leur action. C'est-à-dire que, bah, on peut se dire, oh, bah, de toute façon, on n'y arrivera jamais, notre monde court à sa perte. Et il y a plein de médias qui font un peu leur gros titre sur ces sujets-là. Alors que nous, chrétiens, on a une espérance à apporter. Cette arrivée du royaume, bah, on peut aussi l'apporter à ces gens-là qui sont vraiment dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Et c'est une spécificité, à mon avis, des chrétiens, qu'on doit travailler d'abord dans nos communautés à nous aussi.
Et si je puis me permettre, moi il me semble aussi que le sujet de l'écologie mobilise peu, en tout cas dans les milieux chrétiens, parce que malgré l'encyclique Laudato Si, je trouve que souvent le lien n'est pas fait entre justice écologique et justice sociale. Et c'est, comme le dit le pape François, la clameur de la terre et la clameur des pauvres, et ce lien n'est pas toujours fait, alors que je pense qu'en passant par le biais du social, enfin, je pense que c'est beaucoup plus intuitif pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de catholiques, de s'engager dans le social, dans l'aide au développement même, mais qu'il n'y a pas, comme ce n'est pas aussi évident peut-être, ce lien entre des choses assez concrètes de, je sais pas moi, baisser le chauffage ou moins prendre sa voiture, et le lien avec le fait que finalement nos actes ont aussi un impact sur, comme vous le disiez, des pays, mais même pas que, des pays en développement, mais pas que, même aussi sur les plus pauvres dans nos communautés. Je pense que de ce fait-là, ça peut aussi être une porte d'entrée. Et...
Oui, sur l'espérance, moi je dirais, bien sûr, il y a l'espérance chrétienne et je vais la développer, mais étant avec des gens qui sont, disons, investis sur la question écologique, ils sont aussi porteurs d'une grande espérance. C'est-à-dire quand on voit des gens qui s'y engagent au risque de leur vie ou en y passant énormément de temps et tout ça, c'est qu'ils croient, que l'humanité à un avenir. Et alors, ils ont une espérance qui se fonde dans plein de choses, qui vont avoir des racines peut-être différentes des nôtres, mais on partage cette espérance. Quand on est dans l'action avec des personnes qui essayent de lutter pour plus de justice sociale ou plus de respect de l'environnement, c'est qu'il y a une réelle espérance derrière. Alors, pour ce qui est de nous, en tant que chrétiens, et donc on est ensemble à partager quelles sont nos sources d'espérance et à se renforcer dans cette espérance-là. Et pour nous, ce qui est très fort, c'est que notre espérance se fonde dans la passion et la résurrection du Christ. Dans la passion du Christ, on voit que Dieu s'investit dans l'humanité, que le Christ va jusqu'à perdre la vie pour l'humanité. C'est que Dieu croit très profondément en l'homme. Je mets jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire oui, l'humanité a un avenir, l'homme a un avenir, même au milieu de sa pire violence. Quand on est dans la passion, on contemple la violence humaine très très forte, mais au cœur de cette violence, Dieu nous dit non, mais je crois en vous, et il pardonne ses bourreaux, il croit en l'humanité. Et ensuite, dans la résurrection, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit des disciples pour qui tout s'est effondré. C'est un effondrement total. Ils étaient avec le Christ. Ça y est, on allait vivre ce royaume de Dieu. Et tout d'un coup, et tout qui s'effondre. Et quelques jours après, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont pleins de joie, pleins de dynamisme, et qui vont parcourir toute la Galilée et toute la Palestine et tout le monde antique avec cette foi et cette joie habitée par la résurrection du Christ. Voilà. Et ben, je dirais, nous, on est aussi dans une situation où on sent quand même que les choses vont peut-être pas tout à fait bien tourner. Et donc cette anxiété, donc d'une certaine manière, on le porte sur nos épaules et ça devient très, très lourd. Et ben, quand chrétien, habité par cette force de la résurrection, on reste debout et on reste habité par la joie. Non, notre humanité a un avenir et nous sommes sauvés par le Christ. Voilà. Ça, c'est une force considérable, qui est extraordinaire. Voilà. Et que, effectivement, nous pouvons partager avec d'autres, mais qui sont aussi habités par des choses qui vont aussi nous renforcer et qui sont intéressantes pour nous.
Et justement, dans cette idée de dialogue et de message, on a une question de la salle qui nous dit « Les écolos nous renvoient souvent au verset de la Genèse où l'homme doit peupler la terre et la soumettre. Quel regard de l'Église, faut-il sortir de la prédation et que répondre justement à ce verset ?»
Alors, effectivement, c'est un verset qui pose la question aujourd'hui, enfin son interprétation en tout cas, et le pape François, dans son encyclique, le mentionne bien en disant à demi-mot qu'on a peut-être été dans un sens d'interprétation qui ne nous a pas conduit sur le bon chemin. L'homme a tendance, l'être humain a tendance à projeter sur Dieu sa manière de concevoir les choses. Et donc, quand Dieu dit « soumettez-la », nous, on va penser « prédation, je prends pour moi ». Or, la pensée de Dieu est autre. Il nous confie la création, d'une certaine manière, comme être dans la création qui a une sorte de prédominance par sa plein de qualités, mais pour continuer son œuvre, pour agir comme un paysagiste. Après, dans le récit de la Genèse, il y a aussi des paroles où on dit « garder, cultiver, garder voilà, la création ». Donc, vous savez, au moment du lavement des pieds, le Christ dit « vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison ». Seigneur, c'est dominus, dominer. Voilà. Mais là, c'est une conception de la domination, la domination, le mot est piégé, de Seigneur, de cette racine-là, qui est d'être au service, humblement. Voilà. Donc, quand il nous confie la création et qu'il dit, vous êtes peut-être d'une certaine manière un rôle particulier avec les autres créatures, c'est dans un sens de continuer son œuvre de création et dans le respect des créatures et non pas de prédation.
Je pense que la posture qu'il faut bien garder en tête, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on est une créature. Alors, l'homme est une créature particulière dans la création, mais on reste part de la création et une créature. Et en fait, le péché d'orgueil, je pense, nous a conduit l'humanité à avoir ce réflexe de prédation sur la nature sans limite, sans réfléchir aux conséquences. Pour son propre profit, et je pense que ça s'est clairement accéléré sur les derniers siècles, comme à mon sens le péché d'orgueil nous a fait nous changer de posture par rapport à Dieu, c'est-à-dire que l'oubli de Dieu et la volonté de le mettre de côté par certains courants de pensée, en fait, de remplacer, que l'homme remplace Dieu, c'est vraiment, ça tire ses racines dans l'orgueil. Et du coup, ça positionne l'homme comme maître et dominateur dans la prédation, au lieu d'être en effet un paysagiste qui va prendre soin de cette création qui nous est donnée. Et finalement, je pense que c'est cette posture d'orgueil et de vouloir être Dieu à la place de Dieu qui nous fait oublier que cette création, on en fait partie, et que notre devoir, c'est de la servir pour en fait la perpétuer. Parce qu'en fait, on doit en étant une part, on doit la soigner. Or, c'est absolument pas ce que l'humanité fait la plupart du temps, ou en tout cas dans nos sociétés occidentales la plupart du temps. Oui.
Donc ça pourrait être un point commun que nous avons avec justement les écologistes. Mais alors, du coup, un chiffre intéressant de cette étude, justement, 85% des catholiques pratiquants pensent qu'il faut changer radicalement de mode de vie, mais la moitié ne sait pas comment faire. Ce qui rejoint une des questions de la salle. En trois points, quel geste concret, engagement, on peut faire pour justement la conversion des cœurs? Peut-être Amélie, vous avez... La conversion des cœurs justement à l'écologie et à ce... Comment s'engager en fait aujourd'hui, concrètement, pour en tant que chrétien? Et quel terrain de mission on peut investir?
Bah, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu propre à chacun et à chacune, mais en tout cas, personnellement, je trouve que faire le lien déjà entre justement cette clameur de la terre et cette clameur des pauvres, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup poussée, justement, arriver à s'engager en portant une attention particulière pour les plus faibles et les plus pauvres, qui sont les premiers, en fait, à souffrir des dégradations écologiques, mais aussi toutes les dégradations sociales qui vont avec. Et alors après, ça, c'est parce que moi je travaille là-dedans, mais dans l'agriculture, il y a des vraies problématiques là-dessus. Et par exemple, sur la protection d'une, enfin en tout cas la promotion d'une agriculture plus proche du vivant et plus proche aussi des hommes, parce qu'aujourd'hui l'agriculture qu'on a, malheureusement, c'est une agriculture qui détruit non seulement les sols, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en sont conscients maintenant, et le vivant, mais elle détruit aussi tous les liens sociaux, et elle détruit les hommes. Enfin, le nombre de suicides d'agriculteurs, je pense que c'est, enfin, j'ai pas les chiffres, mais je sais que c'est très important, et le nombre de personnes qui souffrent, d'agriculteurs qui souffrent. Et justement, essayer par ces gestes, quand c'est possible, voilà, de favoriser une agriculture qui est respectueuse du vivant dans toutes ses dimensions, respectueuse donc du paysan et de la paysanne, respectueuse des sols, respectueuse aussi par rapport aux produits qu'on cultive et comment on les met en valeur et comment porter une attention justement à ce qu'on consomme. Je pense que c'est déjà une bonne porte d'entrée. Bien sûr dans la mesure de ses moyens, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans quelque chose de trop culpabilisant en faisant tout reposer sur nos actes individuels. Et j'entends bien qu'on nous dit qu'on se sent démunis, mais pour moi, si on se sent démunis, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de volonté politique derrière, et que s'il y avait une plus grosse volonté politique, ce serait sans doute plus facile.
Moi, je pense qu'un des premiers actes qu'on peut poser, c'est de se former sur le sujet. C'est de se renseigner, c'est d'apprendre. Ça peut être par exemple de faire des ateliers. Il y a plein d'ateliers écologiques qui sont proposés, la fresque du climat, les ateliers d'automne. Et en fait, c'est savoir dans nos actes ce qui peut être fait, parce que en effet c'est propre à chacun, c'est-à-dire que en fonction de l'endroit où on habite, en fonction de la taille de notre famille, en fonction du logement dans lequel on habite, qui sont des données, enfin à l'instant T où vous voulez commencer à agir, vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps. Et se former, accroître ses connaissances, ça permet aussi d'en parler autour de soi. Et en parler autour de soi, c'est le début aussi d'une conversion un peu plus globale de la société qui amènera, comme ce qu'a dit Amélie, à des actions politiques plus importantes. C'est-à-dire que si les populations sont majoritairement en faveur de certaines actions qui vont aider la planète, les dirigeants, ils vont, on espère en tout cas, être plus enclins à les mettre en œuvre, même si elles vont demander des efforts ou elles vont peut-être diminuer les profits de certaines organisations, etc. Et donc je pense que la formation, c'est le premier pas. Et à partir de cette formation, vous saurez, vous, quel est votre petit pas que vous allez pouvoir faire. Est-ce que c'est prendre un peu plus le train? Est-ce que c'est manger un peu moins de viande? Est-ce que c'est acheter local? Des pas, il y en a plein à faire, et je pense que c'est en augmentant sa quantité de connaissances sur le sujet qu'on va pouvoir décider quel est le meilleur pour moi.
De la formation, frère Jérôme, vous en faites justement?
Oui, le CERAS, qui est le Centre de Recherche et d'Action Sociale, qui est un centre qui existe depuis plus d'une centaine d'années, avec la revue Projet, donc vous avez à l'entrée, qui est une revue qui permet de se former justement en lisant régulièrement, en essayant de comprendre les enjeux de la société d'aujourd'hui à partir de la vision de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est vraiment un moyen. Faire un chemin spirituel aussi. Le livre que j'ai écrit avec un compagnon jésuite est dans cette optique-là. C'est un manuel avec des propositions de prière, tout un parcours qui permet de rentrer dans cette intériorité et qui va du coup nous aider à être motivés et avoir de l'élan. Moi, la première chose à laquelle on est appelé, c'est la sobriété de vie. Voilà, il y a des très belles pages dans Laudato aussi. D'ailleurs, en termes de formation, lire cette encyclique, c'est vraiment un très très beau moyen. Moi, j'adore le lire, la relire. Je ne me lasse pas de relire ce texte. Il est d'une très grande profondeur. Il ne s'use pas, en tout cas, à la lecture. Il a maintenant 7 ans, 8 ans. Et c'est vraiment un très beau texte. Et donc, le pape a des très belles pages sur la sobriété. Et il appelle à concevoir ces petits gestes qu'on peut faire, non pas comme quelque chose, je dirais, moralisant, comme vous disiez, un peu punitif et tout ça, mais non, comme un geste d'amour. Voilà, d'amour pour... Plus on rentre dans l'amour de notre création, et pour cela, le cantique des créatures qu'on a cité tout à l'heure de François d'Assise, moi, c'est un cantique que j'aime beaucoup prier quasi tous les jours, de m'émerveiller de la création. Eh bien, plus on rentre là-dedans, plus on a de l'amour pour la création, pour les humains, évidemment, parce qu'en plus, les deux sont liés et l'un entraîne l'autre. Et plus on va être dans ce désir et ce mouvement de la sobriété, de faire attention aux petites choses. Alors pour être très concret, puisque la question appelait à des choses concrètes, si vous voulez, concernant en tout cas la question du réchauffement climatique, nous avons à limiter nos émissions carbone, ça on le sait. Une des choses qui peut être faite, c'est déjà de se sensibiliser sur notre mode de vie et par rapport à cette question d'émissions de carbone. Vous avez des sites sur Internet avec l'ADEME, avec d'autres organismes, où vous pouvez calculer votre bilan carbone. Voilà. Et un Français moyen, c'est 10 à 12 tonnes d'émissions par an. En faisant attention, on peut descendre jusqu'à 5-6. Après, il y a des choses qui relèvent de notre mode de vie et il y a des choses qui relèvent de l'organisation de la société. Donc, ce qui veut dire qu'on a à agir sur notre propre mode de vie et on a à agir, ce qu'on a dit tout à l'heure, aussi sur l'organisation de la société. Donc après, quand on regarde, généralement, quand on fait les bilans carbone, les communautés jésuites, on a tous fait nos bilans carbone, on est en train de regarder l'ensemble et on voit où est-ce qu'on peut bouger. Il y a généralement trois domaines majeurs sur lesquels on a à faire des efforts. C'est tout ce qui est transport, voilà, et notamment l'utilisation de la voiture. Pour ceux qui ont, disons, des moyens et qui voyagent un peu, ce voyage en avion, c'est sûr que ça émet beaucoup de CO2. Donc si on veut réduire et passer de... Il faudrait qu'on soit à 2 tonnes. C'est pour ça qu'on parle de l'atelier, non pas d'automne, mais de 2 tonnes. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à 2 tonnes, ce qui est un objectif difficile. Hein. Bon, donc il faut qu'on réduise. Donc les transports. Ensuite, effectivement, dans notre manière de nous alimenter, la viande a un effet important, donc en manger moins, et notamment pas de bœuf ni de mouton, sauf quand on veut faire la fête ou des choses comme ça, mais je veux dire d'une manière régulière. La troisième chose, c'est le bâtiment et notamment tout ce qui est chauffage. Donc voilà, réduire. Voilà. Déjà, quand on travaille sur ces trois points, on arrive à réduire. Et voilà. Alors, je voudrais juste dire une chose. On est tous à un niveau de conscience de la situation écologique de notre monde. Voilà. On est tous... Moi, il y a 15 ans, je prenais allègrement l'avion pour aller à Paris. Aujourd'hui, ça me semble une aberration. Mais c'est simplement le niveau de conscience dans lequel on est. Donc, on est chacun à un niveau de conscience différent. Et au fur et à mesure, justement, par la formation, on avance petit à petit dans ce niveau de conscience. Et du coup, on arrive à poser des actes et à entrer dans un mode de vie qui va être plus respectueux de la création.
Alors, ce niveau de conscience, ça peut être un point commun, justement, avec des écologistes qui ne seraient pas forcément chrétiens. Justement, il y a beaucoup de questions sur l'écologie au sens politique, ce que vous disiez, notamment... le fait que historiquement, enfin l'image qu'on a un peu de l'écologiste, un peu anticlérical, etc. Est-ce que ça, finalement, ça n'a pas tendance à changer? Et sinon, comment les rejoindre? Comment témoigner justement auprès de cette frange d'écologistes?
Je viens un peu témoigner là-dessus. C'est effectivement, je pense que historiquement, il y a une grosse construction de la frange écologiste qui est partie aussi des militants anarchistes, etc., et qui a une vision assez anticléricale du monde et qui est fortement anticléricale. Enfin, voilà. Mais il me semble, en tout cas, qu'aujourd'hui, ça commence à changer. Alors, parce que déjà, il y a quand même aussi des chrétiens qui s'engagent, mais aussi parce que, dans ma génération, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais mais y a beaucoup de gens qui n'ont aucune culture religieuse, mais que ce soit d'un bord ou d'un autre, et donc qui arrivent en fait d'un point de vue complètement vierge sur le sujet, qui n'ont pas du tout du coup les mêmes a priori que les générations précédentes, ou en tout cas leurs parents ou les générations un peu plus âgées, et qui du coup n'ont pas du tout cette volonté anticléricale, et au contraire sont très respectueux, je trouve, beaucoup plus sans doute de toute forme de croyance et justement d'attention au vivant. Et là-dedans, je pense qu'on peut aussi les rejoindre et ils peuvent être rejoints par nous parce que justement, ils sont assez ouverts finalement à un témoignage même spirituel et même de conversion, enfin, de parler de Dieu, parler de la religion. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler de ça avec des personnes qui étaient complètement athées dans les milieux écologistes. Et il y a vraiment des points où on voit qu'on se rejoint parce que beaucoup ont quand même cette espèce d'intuition. Alors, ils ne mettent pas forcément le mot Dieu derrière, ils ne mettent pas forcément, voilà, mais cette espèce d'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Ils ont une certaine, c'est souvent des milieux où il y a quand même une certaine relation à la transcendance et en tout cas, enfin voilà, cette intuition qu'il y a quelque chose de, qui nous dépasse. Et alors, c'est peut-être aussi à nous de leur apporter les outils pour mettre un nom sur les choses et pour les aider à entrer dans ce chemin-là. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que ça c'est pas propre au milieu écolo, mais qu'il y a des gens qui sont beaucoup de gens qui sont en quête de cette transcendance et de pouvoir l'exprimer et de pouvoir mettre des mots dessus, apprendre à cultiver cette relation, apprendre à rentrer en vrai dialogue. Et je pense que là-dessus, nous catholiques et nous chrétiens, on a un vrai plus-value entre guillemets et on peut vraiment les aider et leur apporter quelque chose.
C'est ce que vous faites dans vos chroniques notamment?
C'est ce que j'essaye de faire. Mes chroniques sont vraiment tournées vers l'écologie concrète, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. Celle de cette semaine, c'était est-ce que c'est écolo d'avoir un animal de compagnie? Voilà. Ce que j'essaye de faire, c'est surtout d'avoir de la bienveillance dans ce que je dis, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la culpabilisation. Et c'est vrai que je pense que c'est la voie écologiste, c'est un très bon vecteur pour que nous, on puisse parler, nous chrétiens, nous croyants, on puisse parler de Dieu, de la façon dont il a créé l'homme, dont il a créé le monde. Il y a eu un livre qui est sorti l'année dernière sur la façon dont l'univers a été créé, dont ce qu'on sait de la science maintenant n'est pas en opposition avec ce que la religion dit, en tout cas. Alors le livre conclut que du coup c'est évident que c'est une preuve de l'existence de Dieu. Je pense que c'est peut-être un petit peu hâtif. Cependant, les connaissances scientifiques n'invalident plus la foi chrétienne. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que en fait, on peut arriver à parler de cette foi à des gens qui sont en effet vierges de tout a priori. Et je pense que c'est plus simple que ce que ça pouvait être. Il y a peut-être 10 ou 20 ou 30 ans. Donc en fait, on peut arriver et leur dire, nous, notre foi, en toute simplicité, en témoignant simplement. Et puis peut-être ça va les rejoindre. Peut-être qu'en leur parlant du Cantique des créatures, ils vont se sentir touchés par ça. Peut-être si on leur parle de la façon dont l'Écriture enseigne que Dieu a créé le ciel, la terre, etc., et qu'on leur parle de l'émerveillement que nous on ressent devant cette création qui nous est donnée, ça va les rejoindre, ça va rejoindre eux leur soif spirituelle et leur soif de transcendance, je pense, qui est présente dans le cœur de tous les hommes, mais qui est parfois pas facile à déceler. Ce manque et cet appel, il peut être c'est dans notre société où on parle très peu de Dieu, c'est difficile pour les gens de se dire « Ah bah oui, évidemment, ce manque que je ressens, cet appel que je ressens, c'est l'appel du Seigneur. c'est pas du tout une question, enfin c'est pas du tout une réponse qui arrive très naturellement pour la plupart des gens. Donc si nous, on témoigne simplement de ce qu'on croit, de l'émerveillement qu'on a devant la nature, de pourquoi est-ce que on est intéressé, nous, pour sauvegarder cette nature, eh bien, ça va peut-être semer une graine. Alors, on parle de l'écologie, donc on peut y aller sur les métaphores. Semer une graine qui, finalement, va pousser dans le cœur de ceux à qui on parle et qui, on n'en est pas maître, mais peut-être qui va les mener à ouvrir leur cœur. Ouais.
Oui, par rapport à l'écologie politique et des mouvements où on a du mal un peu à s'y retrouver en tant que chrétien sur certaines positions. Moi, je crois que la situation du monde aujourd'hui est telle qu'il faut qu'on soit tous ensemble par rapport à cette question écologique. Voilà, c'est vraiment c'est une question de survie de notre monde. Donc, allons-y ensemble. Et justement, parce qu'on est préoccupé par la même chose et avec des choses qui nous poussent à un engagement en commun, et ben c'est un formidable lieu pour rencontrer plein de gens qui sont avec d'autres manières de penser, avec d'autres approches, qui nous taquinent un peu, qui ne sont pas toujours faciles, parce que, et pour eux, inversement aussi. Mais justement, c'est ça qui est formidable, c'est que ben, par l'action, on se rencontre. Moi, je fais la même expérience avec des amis qui sont musulmans, mettons, ben voilà, qui ont une autre manière, une autre conception du monde, tout ça. Mais par l'action, on se retrouve et du coup, on arrive à dialoguer, à se comprendre, à s'enrichir. Voilà. Et ben dans l'engagement avec d'autres personnes qui sont animées par d'autres courants, et ben c'est une expérience extraordinaire. Et c'est une chance extraordinaire pour nous qui nous sort.
Donc, ce qui pourrait nous. Les points d'achoppement entre voilà, l'écologie un peu politique et les chrétiens, ce serait cette conservation de la maison commune, comme dirait le pape François. Pourtant, nous avons aussi, en tant que chrétiens, une conversion à faire, ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que tous les chrétiens ne sont pas sensibles à l'écologie. Du coup, j'en viens à poser la question du public. Dans notre diocèse, la question est la suivante. Quelle priorité est donnée à la conversion à l'écologie intégrale ?
Là, il faut répondre pour le diocèse. Alors, il y a une équipe, je ne sais pas très bien où c'en est pour ce début d'année, mais en tout cas, il y a une équipe qui est chargée de l'animation de la dimension écologique dans le diocèse. Voilà. Il y a des actions. Il y a un groupe de jeunes mission écologie chaque année qui se rassemble et qui agit. Il y a des paroisses qui se sont affiliées au mouvement de l'Église verte dont on a parlé tout à l'heure. L'Église verte propose à une communauté paroissiale ou religieuse de faire un diagnostic de son mode de vie et d'action et d'essayer de voir quels progrès peuvent être faits. Voilà. Et avec des outils qui sont très bien faits et en plus le fait d'appartenir à un mouvement, donc de pouvoir échanger avec d'autres. Voilà. Au moins déjà, c'est ces choses-là que je connais.
Oui, je confirme. Il y a des personnes qui ont été mandaté en fait par le diocèse pour réfléchir à ces problématiques-là. Il y a en particulier des groupes de jeunes pros et d'étudiants qui au printemps, j'arrive pas à me souvenir du nom de leur groupe, mais il y a printemps dedans, c'est sûr. Ils font en fait des actions à destination du public, spécifiquement sur cette question de l'écologie. Donc oui, il y a des gens qui réfléchissent, qui se mobilisent, qui se forment, qui forment aussi leur groupe, leur communauté, leurs groupes locaux. Et d'ailleurs, Amélie, je serais intéressée pour qu'on discute après des parcours, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de mener en paroisse, parce que ça peut être aussi un sujet sur lequel on peut fédérer la communauté, on peut travailler ensemble, on peut prier ensemble, et puis voilà, ça peut être un projet en fait, par exemple de paroisse ou de doyenné, ou qui peut rassembler, qui peut nous rassembler tous, parce que exactement comme ce que vous disiez, il est plus vraiment temps de se dire moi je veux travailler pour l'écologie, mais pas avec celui-là ou pas comme ci. En fait, il faut vraiment tous qu'on s'y mette, parce que clairement on a une urgence et on a une quelque part un peu une obligation d'agir et d'avoir des résultats rapides, parce que les 2 tonnes, il faut qu'on les atteigne avant 2050, et 2050 c'est très très bientôt, et 2 tonnes on n'y est pas du tout en effet. Donc ça c'est que la question du réchauffement climatique. Il y a aussi plein d'autres questions qui sont importantes à traiter sur le soin des sols, sur la biodiversité, etc. Donc le temps est à l'action, sans paniquer, mais en étant quand même voilà.
Essayer de... Oui, pardon.
Et par rapport à aussi, je dirais, sur ces questions justement de est-ce qu'on travaille avec des gens avec qui on n'est pas complètement d'accord, etc. C'est aussi, enfin, il me semble aussi que c'est en s'engageant et en portant notre voix différente qu'on peut faire advenir une voix différente. Parce que si on laisse, là c'est peut-être voilà, mais si on laisse la place vide, entre guillemets, bah forcément ils ne vont jamais se saisir de ces questions. Alors que si on est là et qu'on fait voir qu'il y a des positions différentes, on peut avoir des positions différentes sur certains sujets, on a une vision différente, et ben peut-être pas forcément, mais au moins on a un espoir que au moins la question vienne sur le tapis et que elle puisse éventuellement émerger et aller dans un autre sens que celui qui est actuel, quoi.
Oui, parce que si on doit sortir un peu du cliché du militant écologiste et essayer de trouver ces points d'achoppement qui nous unissent pour ce combat, est-ce que ça peut être ça, la conversion commune dont parlait le pape François, justement, parce que vous en pensez, frère Jérôme ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question.
comment justement... il y a une question de la mission envers les écologistes, pas forcément croyants, mais il y a aussi une mission envers les catholiques, pas forcément sensibles à l'écologie, parce que porteurs de clichés ou parce qu'on n'a pas les mêmes combats sociaux, par exemple. Comment sortir de ça et s'engager face à cette urgence ? Est-ce que ça veut dire se compromettre sur certains sujets ou pas ?
D'abord, je pense que dans la communauté chrétienne, nous sommes d'abord appelés à avoir un grand regard d'amour les uns pour les autres. Voilà, chacun il est là où il est, avec ce qu'il en est, son histoire, et donc d'évacuer tout ce qui pourrait être jugement ou dans le mauvais sens, le jugement dans le sens je te condamne parce que t'as pas les positions que j'ai. Voilà. Donc, j'accueille. Étant religieux, j'expérimente la vie communautaire. Il y a des compagnons qui arrivent dans la communauté et qui sont différents et qu'on est obligé d'accueillir tels qu'ils sont et s'accueillir chacun tel qu'ils sont. Puis je pense que dans la vie familiale, il y en a la même chose avec les enfants et tout ça. Bon. Ça, c'est le premier point qui me paraît très important. Donc, d'écouter, d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et ensuite, on a ce travail d'arriver à trouver les moyens de faire comprendre ce qui nous habite et ce souci-là qu'on a. Alors, par rapport à la question écologique, il y a plein de facteurs. Bien sûr, il y a le facteur qu'on a évoqué qui est l'image. Dès qu'on dit écolo, on pense certains mouvements et qui ont des positions qui ne nous plaisent pas. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, on est dans une société qui se polarise de plus en plus. Donc, d'un point de vue politique, on est d'un bord ou d'un autre, et puis ça devient de plus en plus étanche et de plus en plus polarisé. Donc ça, je pense que nous, on a vraiment une mission de réconciliation, c'est-à-dire d'arriver, de dialogue, de s'écouter et de ne pas s'exclure. Voilà. Donc dans la communauté chrétienne, je pense qu'on se fait de plus en plus traverser par cette dynamique-là qu'il y a dans la société qui est grandissante. Et donc on a à faire très attention dans notre communauté chrétienne. Ça n'empêche pas. Ensuite, sur la question écologique, il y a plein de facteurs qui jouent. On est face à un enjeu énorme et qui peut être vécu comme écrasant. Et du coup, pour ne pas être écrasé, on rejette la question. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le déni ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est trop précasant. Moi, j'ai envie de survivre dans ma tête. Et donc, je ne vais pas m'occuper de ça ou je rejette ces questions-là. Donc, il y a ça qui joue. Ensuite, être vraiment pris par une espérance. On a parlé tout à l'heure de l'espérance. Face à cet enjeu-là, c'est sûr que si on ne trouve pas les racines de l'espérance face à cet enjeu, c'est difficile d'être dans l'action ensuite. Voilà. Comme c'est hyper anxiogène, c'est pareil, je ne vais pas trop m'en préoccuper. Ensuite, ça remet en cause aussi des options personnelles. Et puis, d'une certaine manière, je suis attaché à des attachements, quoi. C'est-à-dire que je suis attaché à mon confort, à mon... pourquoi me priver d'eux ? Souvent, on entend ça. La question, c'est pourquoi les gens là-bas ou les gens qui subissent les conséquences des méfaits écologiques vont être privés d'eux ? Mais moi, et quelle est ma part là-dedans ? Mais on a ce sentiment qu'on va plus pouvoir vivre comme avant. Et on a cet attachement à notre niveau de vie, à notre confort et tout ça. Mais l'évangile, c'est justement de nous détacher. C'est la force de l'évangile, c'est de. Donc ça, c'est un travail qui est à faire. Et pour nous tous, hein, à quelques lieux qu'on soit, à quelques degrés qu'on soit, on est appelé au détachement, à la valeur de la pauvreté dans le sens valeur spirituelle, mais qui a des incidences matérielles, est grande dans l'évangile. Et donc on est appelé à ça. Voilà. Et je dirais aussi, on est, entre guillemets, formaté par 60 ans d'évolution culturelle, sociale, économique de notre société, où on croit que le bonheur, c'est de pouvoir faire des voyages partout, c'est de pouvoir consommer, d'habiter des grandes maisons, d'avoir sa piscine, tout ça. Et on est très très marqué, très très profondément. Et donc on a un travail d'essayer de se construire avec d'autres référentiels, d'autres valeurs qui sont les valeurs évangéliques. Donc nous laisser travailler par l'évangile, voilà. Mais tout ça, c'est pas facile. Et on est, comme je disais tout à l'heure, on est tous en chemin. Mais dans une communauté chrétienne, il y a des personnes qui ont du mal à rentrer là-dedans. Et c'est avec amour qu'on regarde ça et qu'on essaye d'avancer ensemble.
Je pense que c'est même bien plus que 60 ans, en fait. On est formaté par au moins deux siècles de profit et de progrès comme seul horizon. Toujours plus, toujours plus grand, toujours plus de voitures, des voitures toujours plus grosses, plus lourdes. Et puis le profit comme but, en fait, au détriment de la pérennité du support qui nous nourrit, c'est-à-dire de la terre, par exemple. Moi, je pense que ces racines, elles sont très profondes. Et du coup, c'est exactement comme ce que vous disiez. Il y a énormément de résistance psychologique, d'abord, qui freine la conversion et qui freine l'action. Parce que ça nous demande, en effet, d'abandonner cette idée de confort personnel, entre guillemets, mieux vivre. Parce qu'en fait, on s'est fait une idée du bien-vivre qui est pas tenable et qui est pas bonne en soi. Et en fait, les premières choses à faire, c'est de travailler ces points où justement on est dérangé. Ces idées qui grattent un petit peu, où on se dit non mais moi je pourrais jamais abandonner ma voiture, par exemple. Peut-être que c'est pas très facile, mais si justement faut essayer chacun aussi de se convertir et de se dire pourquoi finalement. Il y a cette technique des 3 ou des 5 pourquoi, où quand il y a quelque chose qui nous dérange vraiment, on essaye de trouver la racine. Et peut-être ça peut nous aider chacun à faire un chemin aussi dans notre conversion.
Ouais, et moi j'ajouterais aussi que ce travail, il n'est pas facile, mais on voit aussi qu'il a des vrais effets et qu'il peut vraiment rendre heureux, et même sur le court terme. Parce que accepter, pour moi aussi, de renoncer à certaines choses, c'est accepter d'entrer dans une certaine forme de dépendance et d'accepter du coup de rentrer en relation avec les autres. Et la vie, du coup, s'enrichit beaucoup des relations. On développe beaucoup plus de relations. Moi, un exemple que je donne toujours, je n'ai pas de voiture. Je suis arrivée dans une ville, je suis arrivée à Agen. Je ne connaissais personne, mais personne, personne. Et Agen, ce n'est pas super dynamique niveau transport en commun. Et bah, du coup, ça m'a forcée en fait, à aller voir des gens pour leur demander est-ce qu'on peut covoiturer pour aller faire ci, pour aller faire ça. Et du coup, bah, au bout de 3 mois, j'avais déjà un réseau social de fou. Alors qu'il y a des gens qui avaient une voiture, qui ont mis beaucoup plus de temps à s'adapter. Et voilà, et je sais que si j'ai réussi à construire des relations sociales et des relations aujourd'hui d'amitié, c'est aussi par cette porte d'entrée-là, juste de, bah, en fait, j'ai besoin de vous pour aller quelque part, ou j'ai besoin de toi pour faire ci, pour faire ça. Et c'est comme ça aussi, voilà, partager des voitures, partager, là je dis ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi, et retrouver une certaine sobriété, ça permet de cultiver aussi les relations avec les autres, et de ne pas se sentir, et aussi on revient un peu à cette espèce de péché d'orgueil, de ne pas se croire pouvoir tout puissant et indépendant. Je trouve que accepter, et c'est difficile au départ, mais accepter de, voilà, de se remettre en tant que petit et en tant que dépendant des autres et de Dieu, parce que réduire sa consommation, c'est aussi faire plus de place à bah, justement de temps pour la contemplation, la prière, enfin, quand on est moins happé par les médias, les réseaux sociaux, tout et enfin, même la vitesse, quand on prend le train, on a du temps et on médite dans le train, expérience vécue. Voilà, donc je pense que c'est... Il faut aussi... On a aussi un message à transmettre en tant qu'engagé, mais aussi en tant que chrétien, qu'il y a une vraie... aussi une vraie joie et une vraie... source de, ouais, d'accomplissement ou en tout cas de paix intérieure à réduire et à entrer dans cette sobriété. C'est pas pour rien qu'on appelle la sobriété heureuse, parce qu'effectivement c'est changer notre système de valeurs, et peut-être qu'avant la valeur, et aujourd'hui la valeur qui est promue, c'est le profit, l'argent et le toujours plus, mais si on se dit oui, mais le toujours plus de quoi? Est-ce que c'est toujours plus de relations? À ce moment-là, je pense que ça nous rend bien plus heureux. Et c'est le vrai aussi message de l'Évangile et de la Bible, je pense, là-dessus.
Donc spiritualité et écologie, ça se nourrit? Ça se nourrit mutuellement?
Ah oui, oui. On a pas mal évoqué de choses de ce point de vue-là. Pour moi, il y a quatre domaines très, très importants. Il y a tout le domaine de notre rapport à la création. Cette question écologique nous oblige à nous resituer de manière appropriée dans la création. On l'a évoqué pas mal de fois, voilà, il y a une fraternité avec les éléments de la création. Et quand on dit fraternité, ça veut dire qu'on a même père. Donc de nous resituer correctement par rapport à la création, et non pas en étant tout puissant dans cette création. Je trouve que ça enrichit notre relation à Dieu créateur. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième domaine, c'est par rapport au péché. C'est-à-dire, le pape François disait, on n'entend pas souvent dans les confessionnaux les gens qui s'accusent de péché écologique. Voilà. Je trouve que c'est une démarche qui n'est pas facile à faire. Et puis, on ne va pas se charger, comme je disais, on ne va pas se charger de tout le truc. Hein, évidemment, non. Donc, c'est quelque chose à prendre avec prudence. Mais c'est quelque chose de très important, parce que on peut aussi... c'est une manière de vraiment nous dégager de la culpabilité. Moi, personnellement, je vous ai dit, il y a 15 ans, je prenais l'avion pour aller à Paris. Je suis mal par rapport à ça, parce que j'ai contribué à en mettre du CO2 dans l'atmosphère et donc à dégrader le système. Toute petite part, mais j'ai fait ma part de dégradation. Et donc, mais en fait, eh bien, dans ma relation à Dieu, je sais que je suis très profondément pardonné, et que du coup, je peux aller de l'avant, et Dieu peut m'appeler à aller de l'avant et à vivre et à assumer le passé, mais à le vivre parce que je sais que je suis aimé. Ça, c'est très important comme expérience spirituelle, de regarder, parce que ça fait que je regarde en face les choses. J'ai pas peur de regarder en face les choses, parce que je sais que je suis profondément aimé, et donc je vais pas me détruire en regardant les choses en face. Voilà. Et Dieu, en fait, il nous appelle tous. On est tous pêcheurs avec ce qu'on est, et il nous appelle à bouger. Et il n'y a pas besoin d'être un écolo parfait avec tous ses attributs machin pour pouvoir avancer. Je peux aujourd'hui partir de là où je suis et puis avancer. Voilà. Ensuite, il y a l'appel du royaume que j'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire le Christ nous appelle à bouger. Il y a une force d'appel. Il nous appelle à la conversion. Il y a des très beaux récits de conversion et où on voit des gens qui changent complètement leur référentiel. Vous prenez Zachée, les gens lui donnent la moitié de ses biens. Enfin, les gens ont dû se dire, mais il est en train de gaspiller tout. Enfin, il fait n'importe quoi, lui. Tout ce que lui a légué sa famille et tout. Bon, donc, quand on regarde ça, on voit des gens qui ont complètement changé leur mentalité à l'appel du Christ. Eh ben, voilà, on est à suivre l'appel du Christ. Donc, d'un point de vue spiritualité, je dirais, de contempler ces scènes de conversion, pour nous, je trouve que c'est très fort. Et le dernier point, c'est sur l'espérance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, dans la spiritualité chrétienne, il y a des domaines que je viens de citer qui sont très forts et qui peuvent vraiment nourrir très profondément notre démarche et enrichir notre démarche écologique. Voilà.
Justement, il y a une question qui rejoint cette spiritualité. La vie monastique semble souvent être un modèle de société vers lequel avancer. Comment le prenez cela en dehors du monde catholique ?
Comment ?
Prenez cela en dehors du monde catholique. Prenez ce système de la vie monastique comme voie pour les chrétiens de sauvegarde de la nature.
Parce que je suis désolé, j'ai pas compris la question.
La question, c'est comment prenez la vie monastique comme modèle de société en dehors du monde catholique.
Ben moi, je pense que ça peut passer par la sobriété, justement. Le fait... alors, ce n'est pas forcément le chemin le plus évident, mais le fait de se savoir dépendant de la terre, par exemple, pour se nourrir, ça, c'est quelque chose qu'on a largement oublié dans nos sociétés. Enfin, en tout cas, dans les milieux urbains, c'est plus difficile de sentir cette dépendance à la terre, alors que les moines, eux, ils travaillent la terre aussi pour être en lien avec elle et pour, dans leur prière, en fait, je pense qu'il y a une relation très forte entre le travail et la prière qui se nourrissent l'un l'autre par le biais de la création. Et ça, je pense que tout chrétien peut l'expérimenter simplement en étant dans la nature et en méditant sur cette création qui nous est donnée, sur la façon dont les toutes petites abeilles vont venir polliniser ces fleurs qui ensuite vont pouvoir grandir, donner des fruits. Enfin voilà, il y a toute une... On peut être complètement absorbé dans la contemplation de la nature, dans ces mécanismes très fins, très bien réglé, toute cette nature qui fonctionne très très bien, enfin en tout cas quand l'homme s'amuse pas trop à la détruire. Et je pense que cette contemplation peut nourrir très fortement notre vie spirituelle et notre désir d'être unis à Dieu et la louange qui va naturellement jaillir en fait de notre âme pour rendre grâce à Dieu pour cette création. Moi, je fais du scoutisme et les aînés, les adultes, on leur propose de vivre une heure par jour, enfin un moment par jour en tout cas, qui peut s'apparenter à l'oraison par exemple, mais on leur conseille de le vivre dans la nature. Et c'est pas pour rien, c'est parce que quand on est dans cette nature, quand on est au milieu de ce foisonnement végétal, de ce foisonnement animal, eh bien, on peut être que dans la louange et dans la confiance et finalement dans la prière. Et je pense que ça nourrit très fortement la vie spirituelle.
Alors, pour la petite histoire, c'est vrai que les moines ne mangent pas de viande. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais donc d'une certaine manière, c'est contesté. Bon, alors ça dépend des abbayes. Enfin bon, celle que je connais, voilà, c'est ça. Non, ce que je pense, le témoignage que nous donnent les moines, c'est le témoignage du détachement. Enfin, en tout cas, un des témoignages, c'est-à-dire ils quittent le monde et donc tout le côté de la recherche de l'honneur, de la valorisation de soi, du confort, enfin tout, toutes ces valeurs mondaines, en tout cas, il nous indique un chemin. Et on peut vivre heureux sans toutes ces valeurs mondaines. Et ça, je pense que pour le monde d'aujourd'hui, c'est très fort. Bien sûr, relié à la contemplation de Dieu et une démarche spirituelle. Mais il nous donne un témoignage très fort. Hein.
Mais ce que vous disiez, les moines quittent le monde, mais comment être dans le monde et pourtant prôner une certaine forme de décroissance ?
Alors ça c'est une question effectivement qui n'est pas évidente parce que on pourrait penser qu'en ne vivant pas de la même manière que la majorité des personnes, on se met à l'écart. Je pense par exemple, on peut voir ça pour des enfants au collège, s'ils n'ont pas les Nike et tout ça, ils vont être éventuellement rejetés par la classe parce qu'ils n'ont pas les codes, ils sont pas. Alors du coup, il y a une pression pour que. Et alors les parents vont acheter les vêtements qui vont bien pour que leur enfant soit mieux accepté dans la classe et tout ça. Donc d'une certaine manière, on retrouve un peu ça. Moi, en tout cas, comme expérience, j'ai le sentiment qu'en vivant de manière plutôt simple, hein, dans notre implantation communautaire est dans Bagatelle, dans des logements sociaux, vie très simple, c'est plutôt qu'on rencontre plein de gens et que moi, je ne me sens pas du tout à l'écart. Quoi, et je me sens pouvoir vivre en plein dans le monde tout en étant, en ayant fait des choix de vie très aux antipodes des valeurs mondaines d'aujourd'hui. Quoi.
Je rebondis juste sur l'exemple des enfants. On n'en a pas trop parlé, mais je pense que la famille, c'est un lieu de conversion écologique qui est très important. C'est le moment où c'est l'endroit, c'est le lieu où on va pouvoir apprendre aux enfants à partager, à réutiliser les habits de leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs cousins. Je pense à l'exemple des Nike parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a mon fils qui m'a demandé une paire de TN. Voilà. Et donc, je l'ai fait patienter pendant un certain temps pour vérifier que son désir était vraiment ferme. Et en fait, on l'a acheté sur Vinted. Et donc, c'était des chaussures qui étaient d'occasion, qui auraient peut-être été jetées. Et en tout cas, ce n'est pas des chaussures dont notre utilisation a demandé une fabrication. Alors, ce n'est pas parfait parce que ça reste des chaussures bourrées de plastique et fabriquées dans des conditions sociales tout à fait discutables. Cependant, c'était un premier pas pour lui montrer que on n'est pas obligé d'avoir. On peut faire des choix pour des raisons. Alors, j'ai invoqué avec lui, ça a été l'occasion d'en discuter, d'invoquer les raisons écologiques, un petit peu économiques aussi. Et c'était, je pense, un moment où on a pu partager, où moi j'ai pu partager ces valeurs qui sont importantes pour moi. Et je pense que la famille, c'est un moment, un endroit où on peut vraiment travailler aussi cette conversion-là. Alors même qu'on entend dans la société qu'avoir des enfants, c'est pas écolo. Donc c'est pas toujours facile, en fait. On est très tiraillé aussi avec des discours qui sont parfois un petit peu simples et un petit peu simplistes sur l'écologie interdisent du coup absolument de manger de la viande ou de prendre sa voiture. Voilà. Il faut aussi qu'on fasse avec ce qu'on est et au moment où chacun en est et essayer de faire le petit pas qui suit en fait. Même si le but à atteindre nous semble très lointain et assez, assez inatteignable hein, finalement parfois, c'est important de faire ces petits pas les uns après les autres.
Et j'avais une question plutôt pour vous, Amélie. Est-ce que, enfin, on sait que par exemple, le Natossi parle d'écologie intégrale, chose que forcément l'écologie, au sens politique, ne prend pas forcément le côté social finalement. Est-ce que on peut être militant écologiste et chrétien, par exemple ? Militant écologiste et chrétien.
Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt le contraire. Peut-on être chrétien sans être militant écologiste ? Mais parce que encore une fois, en fait, dans ma perception aussi de l'écologie, moi, je fais pas de différence entre. Enfin, Il y a vraiment un vrai lien entre l'écologie, les petits gestes de protection de l'environnement et la justice sociale, parce qu'on sait aujourd'hui, et il me semble aussi même dans l'écologie politique, que c'est de plus en plus mis en avant, que les conséquences du changement climatique et des crises écologiques, les premiers à les subir, c'est les plus pauvres. C'est les plus pauvres à l'autre bout du monde, mais c'est aussi les plus pauvres ici dans notre société, et on le voit déjà bien aujourd'hui en fait. Qui souffre le plus des inondations, du fait d'avoir une maison mal isolée, de vivre dans des conditions difficiles, du fait d'avoir du mal à se nourrir, c'est les plus pauvres. Et qui souffre de ça, voilà. Donc pour moi, il y a un vrai lien. Et sur l'écologie, ce sera plutôt ça ma réponse.
Moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se faire piéger par les termes. On charge tout de suite très vite les termes de plein de choses. Voilà. Donc, par exemple, militant écologiste, ça tout de suite, ça déclenche... alors ça veut dire membre du parti ELV avec des positions qu'on n'aime pas. Voilà,
dans une position sociétale.
Bon, par exemple, voilà. Bon, donc, et du coup, on rejette. Je pense aujourd'hui, on est appelé face à cette question de dégradation de l'environnement qui remet en cause complètement l'avenir de nos sociétés et de l'humanité. On est appelé à essayer de bouger, on a dit, dans nos modes de vie et aussi dans le changement de notre société. Et donc, changement de société, ça veut dire, alors, le mot militant, c'est le mot qui peut dire plein de choses, mais qui évoque l'idée d'essayer d'agir sur les décisions collectives, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau d'un quartier, de ma ville ou au niveau national. Donc il y a une dimension politique. Voilà. Donc comment, et puis au niveau de l'économie, de nos entreprises aussi. Et là, il y a beaucoup à faire. Bon. Donc pour moi, le mot militant, il peut être chargé d'un sens très étroit, qui c'est d'une appartenance à un mouvement politique avec certaines positions, ou il peut être chargé de l'appel à se mobiliser pour que les décisions collectives aillent dans un sens qui permette de préserver l'environnement. Voilà. Donc on peut être militant écologiste dans tous nos partis, on peut être, on va dire, militant de la cause écologique, si vous voulez, pour pas faire de confusion, voilà, dans tous nos partis, dans nos entreprises, dans nos associations, dans notre quartier, enfin voilà, c'est. Pour moi, il n'y a pas de contradiction, au contraire, voilà, par rapport à ce que vous dites.
Ouais. Et je pense qu'encore une fois, il faut aussi se méfier des raccourcis. Que rien n'est jamais tout blanc ni tout noir, il y a beaucoup de gris, et que c'est pas parce qu'un parti affiche une ligne pendant des élections ou pendant des campagnes que c'est effectivement les décisions qui vont être prises, et même c'est effectivement que tous les militants, toutes les personnes qui votent pour ce parti partagent exactement toutes les idées. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, et que même sur des questions sociales ou même pour mettre les pieds dans le plat, des questions sur le droit à la vie, ses positions sur le début et la fin de la vie, même dans des milieux très très engagés politiquement, où on pourrait croire qu'il y a des positions justement très pro-euthanasie, etc., c'est pas forcément le cas en fait, parce qu'il y a aussi justement cette ascension au vivant, et au vivant dans toutes ses formes, qu'ont aussi les chrétiens et qu'ont aussi les catholiques. Donc voilà, je pense que il faut aussi se garder de caricatures parfois.
Donc finalement, les écolos sont des catholiques qui s'ignorent dans ce sens-là. Dans le sens de préservation de l'environnement, c'est vraiment ce point, cette conversion commune dont parle le pape François. La protection de la vie sous toutes ses formes.
Alors, je ne sais pas ce que vous appelez les écolos, parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est le problème. J'aurais du mal à dire exactement cette phrase-là, que les écolos sont des cathos qui s'ignorent. Je dirais, les personnes qui sont concernées par la question écologique aujourd'hui portent des valeurs et du coup, un combat, une action qui rejoint ce qui, dans ma foi, est une urgence et quelque chose de très important. Voilà, je dirais comme ça. Et que nous avons à faire ensemble. On est ensemble face à une question de sens très profonde que porte l'écologie aujourd'hui, la question écologique. On est dans une question de sens très très profonde. Et que donc on est tous dans une recherche de sens par rapport à la situation de notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Et que ensemble, on va essayer de trouver le sens de ce qui nous arrive. Voilà. Le sens est derrière l'action.
Et pour vous ?
Eh ben pour revenir à cette opposition et à ces préjugés qu'il faut bien se garder d'avoir les uns envers les autres, je pense que c'est important que les catholiques aussi portent cette préoccupation de l'écologie en dehors, dans nos églises, mais aussi en dehors, justement pour pouvoir apporter cette parole chrétienne en rejoignant les combats et les préoccupations des gens qui sont sensibles à la préservation de la nature, donc on les appelle les écolos si, pour aller juste un peu plus vite, mais en portant cette parole chrétienne auprès des milieux écolos, on va aussi quelque part nuancer un petit peu le discours qu'il peut y avoir et puis aider quelque part les cathos à faire tomber un petit peu leurs préjugés comme ce que disait Amélie et c'est en s'engageant dans ce sens-là qu'on va aider aussi à avoir d'autant plus de gens qui se mettent en direction en marche dans la même direction en fait et pour la préservation de la planète quoi.
Vous souhaitez rebondir dessus Amélie?
Oui, moi je rejoins tout ce qui a été dit et effectivement dans la phrase les écolos sont-ils des cathos qui s'ignorent, ça j'en sais rien et encore une fois il faut bien se garder des termes, mais en tout cas les gens qui ont qui s'engagent et qui ont un intérêt pour la protection de l'environnement au sens large sont souvent et porteurs de valeurs qui sont très proches de celles de la religion chrétienne, ça c'est certain, et qui en tout cas pour moi très souvent sont le fondement de ma foi qui est l'amour finalement, et l'amour de tout, l'amour de la création et l'amour du coup entre les personnes. Et ça, je pense que, en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ces milieux-là très fort.
Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin pour conclure cette table ronde. Merci à tous d'avoir, chaque intervenant, d'y avoir participé et à vous de nous avoir écoutés et d'avoir posé toutes ces questions.
Alors, vous trouverez à la sortie, je vous ai mis quelques revues. Des exemples, la revue Projet que vous pouvez découvrir et puis l'ouvrage que j'ai écrit.